J'avais déjà lu quelque chose de ce genre. J'ai contrôlé ces jours-ci. Ce sont des exemples qu'Aristote donnait déjà dans son premier livre de la poétique et dans la rhétorique. Je me suis rappelé ensuite qu'Isidore de Séville définit la comédie comme quelque chose qui raconte « stupra virginum et amores meretricum ». Peu à peu s'est dessiné dans mon esprit ce second livre comme il aurait dû être. Je pourrais te le raconter presque tout entier, sans lire les pages qui devraient m'envenimer. La comédie naît dans les comailles, autrement dit dans les villages des paysans, comme célébration badine après un repas ou une fête. Elle ne parle pas des hommes fameux et puissants, mais d'être vil et ridicule, pas méchant cependant. Et elle ne finit pas par la mort des protagonistes. Elle atteint l'effet de ridicule en montrant chez les hommes communs les défauts et les vices. Ici, Aristote voit la disposition au rire comme une force positive, qui peut même avoir valeur cognitive, lorsqu'à travers des énigmes subtiles et des métaphores inattendues, tout en nous montrant les choses différentes de ce qu'elles sont, comme si elles mentaient, elles nous obligent en fait à les mieux observer, et nous portent à dire « voilà ». Il y en allait vraiment ainsi, et moi je ne le savais pas. La vérité atteinte à travers la représentation des hommes et du monde, pire que ce qu'ils sont, ou que nous les croyons, pire en tout cas que nous les voyons, tels que les poèmes héroïques, les tragédies, les vies des saints nous les ont représentés. Est-ce bien ainsi?
Pas mal. Tu l'as reconstitué en lisant d'autres livres?
Sur nombre desquels travaillait Vénantius. Je crois que Vénantius était depuis beau temps à la recherche de ce livre. Il a dû lire dans le catalogue les indications que j'ai lues moi aussi et avoir acquis la conviction que c'était bien là le livre qu'il cherchait. Mais il ne savait comment entrer dans le Finis Africae. Quand il a entendu Béranger en parler avec Adalme, alors il s'est lancé comme le chien sur la piste du lièvre.
Il en alla bien ainsi. Je m'en rendis compte tout de suite. Je compris que le moment était venu, qu'il me faudrait défendre la bibliothèque avec les dents.
Et tu as appliqué longuement. Cela n'a pas dû être facile pour toi dans le noir.
Désormais, mes mains y voient mieux que tes yeux. Je lui avais soustrait aussi un pinceau à Séverin. Et moi aussi, je me suis servi de gants. Ce fut une belle idée, n'est-ce pas? Tu as mis du temps pour y arriver.
Oui. Je pensais à un mécanisme plus complexe, à un croc empoisonné ou à quelque chose de ce genre. Je dois dire que ta solution était exemplaire. La victime s'empoisonnait toute seule. Et précisément dans la mesure où elle voulait lire. Non sans frémir, je m'aperçus qu'en ce moment, ces deux hommes, s'affrontant en un combat mortel, s'admiraient à tour de rôle, comme si chacun d'eux n'avait agi que pour obtenir les félicitations de l'autre. Mon esprit fut traversé par la pensée que les arts déployés par Béranger pour séduire Adelme, et les gestes simples et naturels par lesquels la jeune fille avait suscité ma passion et mon désir, n'étaient rien. Quant à la ruse et à l'habileté forcenée de la conquête de l'autre en face de cette séduction réciproque qui avait lieu sous mes yeux à l'instant, et qui s'était déroulée 7 jours durant, chacun des deux interlocuteurs donnant, pour ainsi dire, de mystérieux rendez-vous à l'autre, chacun aspirant secrètement à l'approbation de l'autre, qu'il redoutait et haïssait.
« Mais à présent, dis-moi, disait Guillaume, pourquoi ? Pourquoi as-tu voulu protéger ce livre plus que tant d'autres? Tu cachais, mais pas au prix du crime, des traités de nécromancie, des pages où l'on blasphème peut-être le nom de Dieu. Mais pourquoi pour ces pages? As-tu damné tes frères et t'es-tu damné toi-même? Il y a tant d'autres livres qui parlent de la comédie, tant d'autres encore qui contiennent l'éloge du rire. Pourquoi celui-ci t'inspirait-il tant d'épouvante?
Parce qu'il était du philosophe. Chacun des livres de cet homme a détruit une partie de la science que la chrétienté avait accumulée tout au long des siècles. Les pères nous avaient transmis ce qu'il fallait savoir sur la puissance du verbe. Et il a suffi que Boèce commentât le philosophe pour que le mystère divin du verbe se transformât en la parodie humaine des catégories et du syllogisme. Le livre de la Genèse dit ce qu'il faut savoir sur la composition du cosmos. Et il a suffi qu'on redécouvrit les livres de physique du philosophe pour que l'univers fût repensé en termes de matière sourde et visqueuse, et pour que l'arabe Averroès fût à deux doigts de convaincre tout le monde de l'éternité du monde. Nous savions tout sur les noms divins, et le dominicain, enseveli par Abon, séduit par le philosophe, les a renommés en suivant les sentes orgueilleuses de la raison naturelle.
Ainsi, le cosmos, qui pour l'aréopagite se manifestait à qui savait regarder en haut la cascade lumineuse de la cause première, exemplaire, est devenu une réserve d'indices terrestres d'où on remonte pour nommer une abstraite cause efficiente. Avant, nous regardions vers le ciel, daignant jeter un regard courroucé à la boue de la matière. Maintenant, nous regardons vers la terre et nous croyons au ciel sur le témoignage de la terre. Chaque mot du philosophe, sur qui désormais jurent même les saints et les souverains pontifes, a renversé l'image du monde. Mais il n'est pas allé jusqu'à renverser l'image de Dieu. Si ce livre était devenu matière de libre interprétation, nous aurions franchi la dernière limite.
Mais qu'est-ce qui t'a fait peur dans ce discours sur le rire? Tu n'élimines pas le rire en éliminant ce livre.
Non, certes. Le rire est la faiblesse, la corruption, la fadeur de notre chair. C'est la musette pour le paysan, la licence pour l'ivrogne. Même l'Église, dans sa sagesse, a accordé le moment de la fête, du carnaval, de la foire, cette pollution diurne qui décharge les humeurs et entrave d'autres désirs et d'autres ambitions. Mais ainsi le rire reste vile chose. Défense pour les simples, mystère déconsacré pour la plèbe. L'apôtre même le disait, « Plutôt que de brûler, mariez-vous. » Plutôt que de vous rebeller contre l'ordre voulu par Dieu, riez, amusez-vous de vos immondes parodies de l'ordre, à la fin du repas après avoir vidé les cruches et les fiasques. Élisez le roi des folles, perdez-vous dans la liturgie de l'âne et du cochon, jouez à représenter vos saturnales la tête en bas, mais ici, ici. »
À présent, Jorge frappait du doigt sur la table près du livre que Guillaume tenait devant lui.
« Ici, on renverse la fonction du rire, on l'élève à un art. » On lui ouvre les portes du monde des savants, on en fait un objet de philosophie et de perfide théologie. Tu as vu hier comment les simples peuvent concevoir et mettre en œuvre les plus troubles hérésies, méconnaissant et les lois de Dieu et les lois de la nature? Mais l'Église peut supporter l'hérésie des simples, lesquels se condamnent eux-mêmes, ruinés par leur ignorance. L'inculte folie de Dolcino et de ses pères ne mettra jamais en crise l'ordre divin. Il prêchera la violence et mourra dans la violence, il ne laissera point de traces, il se consumera ainsi que se consume le carnaval. Et peu importe si au cours de la fête se sera produite sur la terre, et pour un temps compté, l'épiphanie du monde à l'envers. Il suffit que le geste ne se transforme pas en dessein, que cette langue vulgaire n'en trouve pas une latine qui la traduise. Le rire libère le vilain de la peur du diable, parce qu'à la fête des folles, le diable même apparaît comme pauvre et folle, donc contrôlable. Mais ce livre pourrait enseigner que se libérer de la peur du diable est sapience. Quand il rit, tandis que le vin gargouille dans sa gorge, le vilain se sent le maître, car il a renversé les rapports de domination. Mais ce livre pourrait enseigner aux doctes les artifices subtils et à partir de ce moment-là illustre par lesquels légitimer le bouleversement. Alors, ce qui dans le geste irréfléchi du vilain est encore et heureusement opération du ventre, se changerait en opération de l'intellect. Que le rire soit le propre de l'homme et le signe de nos limites de pêcheurs. Mais combien d'esprits corrompus comme le tien attireraient de ce livre l'extrême syllogisme, selon quoi le rire est le but de l'homme? Le rire distrait, quelques instants, le vilain de la peur. Mais la loi s'impose à travers la peur, dont le vrai nom est crainte de Dieu. Et de ce livre pourrait partir l'étincelle luciférienne qui allumerait dans le monde entier un nouvel incendie. Et on désignerait le rire comme l'art nouveau, inconnu même de Prométhée, qui anéantit la peur. Au moment où il rit, peu importe au vilain de mourir, mais après, quand prend fin la licence, la liturgie lui impose de nouveau, suivant le dessein divin, la peur de la mort. Et de ce livre pourrait naître la nouvelle et destructive aspiration à détruire la mort à travers l'affranchissement de la peur. Et que serions-nous ? Créature pécheresse, sans la peur peut-être le plus sage et le plus affectueux des dons divins. Pendant des siècles, les docteurs et les pères ont sécrété d'embaumantes essences de saints savoirs pour racheter à travers la pensée de ce qui est élevé la misère et la tentation de ce qui est bas. Et ce livre, en justifiant la comédie comme miraculeuse médecine, et la satire et le mime qui produiraient la purification des passions à travers la représentation du défaut, du vice, de la faiblesse, induirait les faux savants à tenter de racheter, dans un diabolique renversement, le haut à travers l'acceptation du bas. De ce livre découlerait la pensée que l'homme peut vouloir sur la terre, comme suggérait ton Bacon à propos de la magie naturelle, l'abondance même du pays de Cocagne. Mais c'est justement cela que nous devons ni ne pouvons avoir. Regarde les moignillons qui se dévergondent dans la parodie bouffonne de la scène à Cipriani. Quelle diabolique transfiguration de l'écriture sainte! Et pourtant, tout en le faisant, ils savent que cela est mal. Mais le jour où la parole du philosophe justifierait les jeux marginaux de l'imagination déréglée, oh alors vraiment, ceux qui se trouvaient en marge sauteraient au centre, et du centre, on perdrait toute trace. Le peuple de Dieu se transformerait en une assemblée de monstres éructés des abîmes de la terre inconnue, et c'est alors que la périphérie de la terre connue deviendrait le cœur de l'empire chrétien. Les arimaspes sur le trône de pierre, les blémis dans les monastères, les nains au gros ventre et à la tête gigantesque comme gardien de la bibliothèque. Les serviteurs dicteront la loi. Nous, et toi aussi à ce compte, nous obéirons à la vacance de toute loi. Un philosophe grec, que ton Aristote cite ici, complice et immonde Doctoritas, dit qu'on doit démanteler le sérieux de ses adversaires avec le rire, et le rire adverse avec le sérieux. La prudence de nos pères a fait son choix, si le rire est le plaisir de la plèbe. Que la licence de la plèbe soit tenue en bride et humiliée et sévèrement menacée. Et la plèbe n'a pas d'armes pour affiner son rire jusqu'à le faire devenir instrument contre le sérieux des pasteurs, qui doivent la conduire à la vie éternelle et la soustraire aux séductions du ventre, des pudendas, de la nourriture, de ses sordides désirs.